La reprise.
Voici un jour.
Samedi sur Radio Copie, Karine Galimbayer vous offre les reprises musicales. Les mêmes chansons, des voix différentes. Samedi dès 10h, heure de Kinshasa. Des chansons anciennes ou récentes, reprises en des versions différentes. C'est sur la fréquence de la paix.
Voilà, c'est sur la fréquence de la paix. À présent, nous allons parler du droit à l'héritage qu'est dit la loi congolaise. Monsieur Guillaume Allaire, juriste indépendant et notre invité encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Vous avez le droit à l'héritage est souvent sujet à controverse suite à plusieurs pesanteurs et contraintes africaines. Les héritiers ont difficile à rentrer dans leur droit successoral. Après le décès du père, par exemple, ses frères et sœurs s'emparent des biens du défunt au détriment de la veuve et des enfants. Pourtant, la loi congolaise prévoit des dispositions qui garantissent les droits des héritiers. Quelles sont ces dispositions, Monsieur Malher?
Merci beaucoup, Jody. C'est le code de la famille qui organise cette matière dans notre pays. C'est donc une loi datant de 1987 qui a été promulguée par le chef de l'État. C'est précisément la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, communément appelé code de la famille. C'est dans cette loi-là que les questions relatives à l'héritage sont réglées. Mmh. Et ce sont des dispositions qu'on appelle impératives, c'est-à-dire qui s'imposent, n'est-ce pas, à tous les citoyens vivant sur les territoires de la République, qui doivent les respecter. Mmh. Et les coutumes qui lui sont contraires, coutumes ou pratiques qui sont contraires à cette loi sont considérées comme illégales et ne doivent pas être démises. Donc c'est là le problème.
Oui.
Comme vous l'avez dit dans l'introduction, il se pose justement que nos cultures parfois conçoivent les choses autrement que les législateurs. On a des cultures où pour certains parents, oui, ce n'est pas les enfants qui sont prépondérants comme la loi le prévoit, ce sont plutôt les neveux et les nièces.
Oui.
Et donc dans la pratique, ceci cause énormément de problèmes. Un parent, plutôt que d'exercer les obligations que la loi lui donne vis-à-vis de ses enfants, les exerce plutôt vis-à-vis de ses neveux et nièces. Et ceci aussi se ressent au moment de l'héritage, à l'occasion du décès d'un tel parent.
Mmh.
Eh bien, vous avez...
Est-ce que bien avant revenir aux neveux, aux nièces ou à ses propres enfants?
En principe, la loi est claire, ce sont les enfants qui doivent être privilégiés. Les obligations du parent, c'est d'abord par rapport aux membres de son ménage et principalement les enfants. Et donc, les tiers au ménage, c'est-à-dire les parents du défunt, ses cousins, cousines, etc., ne viennent que vraiment en deuxième ou en troisième.
Alors, on parle souvent des héritiers première catégorie, deuxième, troisième. Pouvez-vous rappeler tout cela?
Exactement. Je vous dis, c'est donc l'article 758 du Code de la famille qui dit ça, qui, n'est-ce pas, répartit tous ces héritiers à différentes catégories. La première catégorie est formée par les enfants du défunt, les enfants à ses propres enfants qui sont nés dans le mariage, n'est-ce pas, ou affilié du vivant du défunt. Dans cette catégorie aussi, il y a aussi les enfants qui sont adoptés, n'est-ce pas, adoptés par le défunt. Eh bien, ils ont exactement les mêmes droits que tous les autres enfants et ils forment tous donc la première catégorie.
Les enfants nés en dehors du mariage.
Mais non affiliés, non reconnus du vivant du défunt, malheureusement, n'ont pas vocation à venir à l'héritage.
Voilà. Alors, la première catégorie est constituée des enfants, donc nés dans le mariage et
hors mariage,
mariage affilié, et l'enfant adopté.
Exact.
Alors, la deuxième catégorie est constituée de qui exactement?
La deuxième catégorie est constituée du conjoint survivant, si c'est l'homme qui meurt, donc la femme qui reste, ou si c'est la femme qui meurt, le mari qui reste, donc le conjoint survivant, les pères et mères du défunt, ainsi que les frères et sœurs du défunt. Voilà la deuxième catégorie telle que la loi le prévoit. Et vous constaterez que quand on les cite comme ça, en fait, il y a trois groupes là-dedans, dans la deuxième catégorie. Premier groupe, le conjoint survivant.
Mmh.
Deuxième groupe, le père et la mère du défunt. Et troisième groupe, les frères et sœurs du défunt, dans cette deuxième catégorie.
Donc, c'est cela veut dire qu'ils n'ont pas des droits, les droits ne sont pas les mêmes.
Non, ça dit que lors du partage, on considère que ces droits, trois groupes reçoivent des parts égales. Mmh. Le conjoint survivant, elle constitue, ou il constitue, un groupe à part, et donc, quand on va partager les biens au sein du troisième groupe,
oui.
Eh bien, au sein de la deuxième catégorie, pardon, chaque groupe recevra une part égale. Donc, le conjoint survivant recevra exactement comme le père et la mère du défunt, mais exactement comme les frères et les sœurs du défunt.
Blanchard nous appelle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au droit à l'héritage?
Oui, j'ai une question pour vous à l'invité.
Oui.
Ma question est celle-ci. Est-ce que la loi reconnaît aux oncles les droits d'héritage au même titre que la femme et les enfants? Parce qu'on dirait que la coutume est prime sur la loi.
Oui, vous avez un exemple? Vous avez vécu un cas chez vous en Mbandaka?
Oui, j'ai un cas concret de... Qu'est-ce une famille qui est à côté de moi, dans mes voisins.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Oui, il y avait un papa qui était décédé, il a laissé ses enfants avec sa femme. Maintenant, il y avait un oncle qui est venu de loin, il était venu de mon côté là-bas.
Oui.
Il est venu pour s'accaparer de tous les biens. Alors moi, je n'étais pas content. C'est pourquoi je demande si la loi reconnaît aussi aux oncles et tantes les droits à l'héritage au même titre que la femme et ses enfants.
Oui, monsieur Malheur.
Merci beaucoup pour la question à Blanchard. Nous étions justement en train d'énumérer les catégories, nous en étions à la deuxième. Eh bien, la troisième catégorie, c'est justement les oncles et les tantes paternelles ou maternelles du défunt. C'est ça la troisième catégorie selon la loi. Mais attention, quand vous allez à l'article 762 du Code de la famille, il dit ceci. Que ses oncles et tantes paternelles ou maternelles du défunt ne viennent à la succession que lorsqu'il n'y a pas d'héritier de la première et de la deuxième catégorie. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de conjoint survivant, il n'y a pas de père et mère, il n'y a pas de frère et sœur, alors les oncles et les tantes viennent à l'héritage. Mais si ces deux catégories existent, les oncles et tantes, malheureusement, n'ont droit à rien. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment en dernière position et ils ne viennent à l'héritage que lorsque les deux premières catégories ne sont pas là. Alors, un tel oncle qui vient de Moncoton, qui vient s'imposer,
oui.
En réalité, selon la loi, il est en train de ravir des biens qui sont déjà dévolus par la loi à d'autres
personnes. Est-ce que cet oncle-là est au courant de ces dispositions légales?
Bon,
c'est d'abord la question.
Oui, ça
il est censé ignorer la loi.
C'est ce que j'allais dire. Heureusement que vous avez vous-même des connaissances en droit. Il y a une fiction qui dit justement que nul n'est censé ignorer la loi. Et dès qu'il vient comme ça, cet oncle, il convient de lui dire, de l'informer, oncle, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et si vous le faites, malheureusement, nous, on va saisir les instances judiciaires. Et il suffit d'aller au parquet, un tel oncle sera tout de suite interpellé pour extorsion, c'est-à-dire à l'action, l'acte qui consiste à ravir des biens de force qui appartiennent à autrui. C'est une infraction qui est assez grave parce qu'elle est punie de 5 à 20 ans de prison.
Malonga nous appelle de Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui.
Oui, Malonga, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, j'ai seulement une préoccupation à demander à notre invité là-bas.
Laquelle?
Bon, dans notre famille, nos pères, donc nos parents ont l'habitude d'être ensemble. Et d'ailleurs, nous avons une avenue propre à nous.
Oui.
Alors, mon père est mort.
Oui.
Il est un fonctionnaire de l'État.
Mmh.
Il est ce petit frère. Nous, les enfants, nous restons sous la supervision de ce petit frère.
Mmh.
Il y a un de ce petit frère qui va s'approprier son salaire. Et jusqu'aujourd'hui, nous demandons ça, moi aussi de demander ça, en tout cas pour nous c'est difficile, puisque ce sont ceux qui commencent vraiment à continuer la responsabilité que notre père faisait.
Et votre père, il travaillait où?
Oui.
Votre père travaillait où? Il travaillait dans quel ministère ou service?
Bon, il était dans la fonction publique de l'État.
Oui, à la fonction publique, ok.
Ok, alors, jusqu'à présent, c'est mon oncle paternel qui reçoit ce salaire.
Oui.
Moi, je suis cesse de lui demander cela, pour que lui, il continue avec la responsabilité que mon père a fait. Qu'est-ce que je peux dire, la procédure que je peux faire là-bas, ce soir, c'est ce que je demande à notre invité.
Merci Moïse, merci Malonga. Moïse nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Oui, je suis Moïse, bonjour.
Oui, Moïse.
Oui, je voulais juste savoir comment donc l'État peut-il intervenir si c'est papa qui, dans son testament, il a totalement ignoré ses enfants et il a mis ses frères et donc tous les membres de sa famille, tout en ignorant les enfants.
Vous avez un cas concret, Moïse?
Pardon? Oui, ce sont des cas que nous avions vécu comme ça.
Oui.
Et quand je pose la question, comment l'État peut-il intervenir pour trancher dans ce genre de problème?
Merci. Merci, on nous appelle de Kinshasa également. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, j'ai un cas contraire. Hein. C'est-à-dire, je voulais demander à l'invité s'il pouvait nous donner à peu près la répartition pour sa tâche, sur 100%. Quel est le pourcentage des héritiers des primaires, c'est vrai, et des secondaires, ainsi de suite. Parce que moi, j'ai un cas.
Oui.
Quand j'ai connu une famille, le papa est décédé, il a laissé les enfants. Mais les enfants ont vendu tous les biens que leur papa a laissé,
oui.
Mais tout en oubliant les oncles, les papas, les vieux consorts. À ce moment-là, qui a bouffé l'autre? Ce sont les enfants qui ont maltraité les oncles et les consorts.
Merci, merci pour votre question. Monsieur Malher va répondre.
Oui, merci beaucoup Jody, merci aux auditeurs pour les nombreuses questions. Alors, pour les tuteurs, hein, appelons les tuteurs, le papa est mort, l'oncle, le petit frère du papa prend en charge les enfants, donc il est un tuteur.
C'est lui qui perçoit le salaire.
Bon, maintenant, il va percevoir le salaire et en use à son gré. Or, vous savez très bien que, d'abord, le tuteur... Lorsque l'enfant est encore mineur, eh bien, il administre tout simplement les biens de ces enfants-là, et à leur majorité, il doit leur faire compte et leur remettre, après les avoir soldé tous les comptes avec eux, leur remettre leurs biens pour qu'ils puissent faire une gestion propre. Or, l'auditeur qui nous a parlé tout à l'heure, Monsieur Malonga, me semble être une personne adulte,
oui.
Donc il y a très longtemps qu'il aurait dû cesser de se considérer comme étant sous la tutelle de son oncle.
Oui.
Donc en réalité, c'est un adulte qui vit indépendamment, et donc son oncle n'a plus, n'est-ce pas, à se prévaloir d'un quelconque droit sur ses biens. Donc moi, je pense que, à part les peurs inexpliquées liées aux pesanteurs coutumières, vous l'avez prononcé, le mot aujourd'hui.
Oui.
Et donc, à part ce genre de peur là-bas, il est en droit d'aller auprès de l'employeur qui est constant quand même à payer une rente, n'est-ce pas, aux orphelins, pour aller dire que non, nous sommes maintenant, majeurs, et donc nous voulons nous prendre en charge, c'est notre bien, donnez-le nous. Donc, c'est sans droit que le tuteur continue à jouir de ce salaire, et apparemment, il ne le donne même plus aux autres là, parce que ça m'étonnerait quand même que Malonga, adulte qu'il est, continue à être sous tutelle. Mais s'il est sous tutelle, alors il est normal que le tuteur prenne cet argent pour l'entretenir, lui, Malonga, s'il vit encore.
Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit aller réclamer, il doit aller en justice.
J'ai bien dit, ce sont les cas maintenant. S'il ne vit plus sous le toit du tuteur, il n'est plus entretenu par lui, alors il peut aller auprès de l'employeur déjà, lui faire connaître cet état de choses, parce que souvent, l'employeur n'est pas au courant. Hein, mais s'il est au courant qu'il y a des héritiers majeurs qui peuvent se prendre en charge, automatiquement, les salaires vont commencer à lui être versés à lui.
Voilà, avant de répondre aux autres auditeurs, Caleb est en ligne de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Noël.
Oui, Caleb.
Oui, je voulais poser la question à notre invité.
Oui.
Je connais un papa qui avait plusieurs femmes et plusieurs enfants.
Oui.
Alors, tellement ses enfants ne s'entendaient pas de son vivant. Et à sa mort, il a laissé un document qu'on peut appeler, je ne sais pas, testament.
Mmh.
Disant que personne n'a le droit de toucher à ses biens et que ses biens devraient rester tels que les actes de son vivant. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que les enfants qui ont des droits peuvent faire selon les droits? Voilà un peu ma question.
Personne n'a le droit de toucher à ses biens.
Oui.
Même pas ses enfants.
Bien sûr, il parlait de ses enfants. Non, ce sont ses enfants qui n'ont même pas le droit d'y toucher. Pour lui, qu'il ne se tue pas et qu'il ne laisse pas le problème.
Merci bien, M. Malher.
Alors, c'est un peu comme la question qu'a posée Moïse Malonga, d'un défunt qui laisse un testament dans lequel lui, il ignore totalement ses enfants. Hein. Je crois qu'il donne les biens à d'autres personnes. Et bon, il touche là à la question de la réserve successorale. Donc, la loi a prévu, hein, a anticipé sur ce genre de comportement en disant qu'il y a une réserve de la succession, une quote-part de l'héritage qui est réservée aux enfants, et que même par la voie du testament, on ne peut pas toucher. Et c'est l'article 779 du Code de la famille qui dit que la quote-part qui revient aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions du testament établi en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres personnes à qui il veut laisser les biens. Donc, même lorsque le papa qui décède stipule dans son testament que ses enfants n'auront rien, eh bien la loi dit « niet » à ces enfants-là, les trois quarts de l'héritage qui leur est destiné, c'est une réserve successorale à laquelle même le testateur ne peut pas toucher. Voilà. Donc c'est une façon de protéger ceux qui restent. Mm-hmm. Il ne faut pas que celui qui décède, qui part, qui quitte ce monde, prenne des dispositions qui puissent porter préjudice à sa progéniture qui demeure. Mm-hmm. Parce qu'en ce moment-là, en la privant des moyens de survie, il veut que qui prenne en charge les enfants qu'il a laissés.
Oui. Oui. Alors, merci à demander la répartition en termes de pourcentage.
Exactement. Et c'est toujours la loi qui le dit. L'article 759 dit que les héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire les enfants, reçoivent les trois quarts de l'hérédité. Donc, sur les 100%, trois quarts, je dis, ça fait 75, je crois. Hein?
Oui, ils ont 75%.
Donc, trois quarts de l'hérédité, c'est à partager entre les enfants nés dans le mariage, hors du mariage et affiliés, et les enfants adoptés. Et l'article 760 du Code de la famille dit que les héritiers de la deuxième catégorie, donc les conjoints survivants, les pères et mères du défunt ainsi que ses frères et sœurs, reçoivent le solde, donc ce qui reste, le solde de l'hérédité. Vous voyez, et voilà un peu comment c'est distingué, c'est prévu. Donc, lorsqu'il y a des héritiers de la première catégorie et ceux de la deuxième catégorie, tout se partage entre ces deux catégories seulement. Vous vous souvenez qu'on a dit au début de l'émission que les oncles et tantes qui forment la troisième catégorie ne viennent à l'héritage que s'il n'y a pas les deux premières catégories. Bah. Donc, voilà le pourcentage de la répartition.
Voilà. Germain nous appelle des Goma, bonjour. Germain, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Bonjour. Oui, personnellement, je pense que, oui, certaines lois, sauf qu'on s'occupe de plus en plus les enfants, des filles jusqu'à adolescents, dont les parents de la fille n'ont pas les moyens, l'état d'accepter cet enfant. Maintenant, son père a prisonné dit violeur, et beaucoup de problèmes qui surviennent. Donc, est-ce qu'il existe une loi qui protège cet enfant décidé de faire et d'autres?
Merci, monsieur Malher.
Oui, là, c'est nous sommes pratiquement dans une autre thématique, je pense. Il parle des enfants qui sont abandonnés parce que issus du viol. Et donc, personne ne veut les reconnaître. Il demande s'il y a une loi qui protège ces enfants. Effectivement, il y a la loi portant protection de l'enfant, la loi du 10 janvier, si ma mémoire est bonne, 2009, sous réserve de vérification. Mm-hmm. Et cette loi protège cet enfant et dit que cet enfant a tous les droits qui sont reconnus aux autres enfants, droit à la protection, à l'entretien, à l'éducation, etc. Et donc, généralement, dans la pratique, à ce genre d'enfants, eh bien, on les confie, n'est-ce pas, à des parents ou à des tuteurs qui peuvent accepter de les prendre en charge.
Oui.
Mais nous sommes là dans un autre thème. J'étais plutôt en train de vouloir répondre à la dernière question aussi, si vous permettez, aujourd'hui, de Caleb, hein, qui a parlé d'un papa qui laisse un testament dans lequel il dit « personne ne peut toucher à mes biens ». Bon, vous comprenez.
Ses enfants étaient tout en conflit, ils sont vivants.
Oui. Bon, il est permis, hein, dans la loi, il y a des dispositions légales qui permettent, comme on dit, de déshériter, hein, d'exhériter pour un motif ou un autre, un héritier, pour indignité, n'est-ce pas, ou lorsque du vivant du du défunt, il a refusé de lui apporter les soins nécessaires alors qu'il en avait besoin, la loi reconnaît que un tel enfant peut être, n'est-ce pas, privé de l'héritage. Alors, mais l'hypothèse extrême qui consiste à dire que aucun héritier n'y touchera, me paraît quand même assez invraisemblable dans la mesure où tous les enfants ne peuvent pas être totalement indignes. Bon, si ça arrive, bien, en ce cas-là, on considérera donc qu'il n'y a pas d'héritier de la première catégorie, mais les autres catégories existent, la deuxième existe, la troisième existe, eh bien, l'héritage pourrait être dévolu alors à cela. Mais dire que personne, ni première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, ça me semble être un problème. On peut même se poser si le défunt à ce moment-là était sain d'esprit quand il a pris une telle décision, et la loi s'appliquera alors dans ce cas-là, on demandera aux héritiers de venir à l'héritage.
Réponse à vos réactions, questions et sujets avec l'invité de Capu Charlie.
Droit à l'héritage, que dit la loi congolaise? Monsieur Guilhem Malheur est juriste indépendant et notre invité. Et une question de patient, il dit ceci, il nous a écrit, il dit sur les dossiers de l'héritage, je pense que celui qui peut hériter dans une famille, c'est le fils qui a un bon comportement. Monsieur Malheur.
Oui, oui, c'est ce que nous venons de dire justement. En principe, les devoirs, hein, n'est-ce pas, du papa envers ses enfants ou des parents envers leurs enfants ont des corollaires. Hein. Les enfants aussi sont astreints à des devoirs envers leurs parents, des devoirs d'assistance, d'obéissance, etc. Mais et un enfant peut, n'est-ce pas, s'avérer être indigne, indigne de pouvoir hériter d'un parent qui est décédé. Lorsque, par exemple, du vivant, par exemple, de ses parents, il ne lui manifestait aucune affection, ne lui rendait aucune visite, et même dans ses moments de maladie, la dernière maladie, a refusé de lui apporter les soins auxquels il est astreint par la loi, parce qu'il doit protéger, il doit assistance aussi à ses parents. Un tel enfant est indigne, il peut être écarté de l'héritage, je suis tout à fait d'accord, et la loi le prévoit d'ailleurs.
Katamba nous appelle de Mongwalou, en Ituri, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, mon auditeur.
Bonjour. Katamba, on vous écoute. On vous écoute.
Mon problème, ma préoccupation, va être bien faite. Le code de famille est clair, mais le problème se pose à ce qui concerne le droit du chauffeurage. Qu'est-ce que cette loi-là n'est pas suffisamment vulgarisée? Alors, vous voyez, comme dit aujourd'hui mon peuple touriste, par ignorance, beaucoup de gens en profitent pour dépouiller les héritiers de leur droit.
Oui.
Seulement, moi, je le suivant, il faut que le futur de l'organisation des droits de l'homme puisse vulgariser le fisc, cet article-là, partout. Et puis aussi le problème qu'on fait, comme vous l'avez dit, de la présenter ce soir culturel.
Merci Katamba, merci, merci pour votre intervention, M. Malheur.
Nous sommes d'accord avec lui, il y a un problème de vulgarisation de la loi. Il ne suffit pas de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Encore faut-il porter cette loi à la connaissance des administrés. Donc,
c'est très important. Hervé Biakouyenga, élève finaliste à l'Institut Moulimba de Mbandaka, dit ceci, bonjour. J'aimerais savoir si les problèmes de succession familiale peuvent être traduits en justice. Selon moi, les coutumes doivent être respectées parce que l'Afrique a ses coutumes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça peut s'arrêter. Hervé, il nous a écrit de Mbandaka.
C'est un avis, ça, c'est un défenseur invétéré de la coutume. Mais malheureusement pour lui, on ajoute souvent, la coutume est applicable, elle n'est pas rejetée, il ne faut pas qu'il soit frustré. Elle n'est pas rejetée, mais elle est applicable pour autant qu'elle n'est pas contraire à la loi. Parce que vous savez, si on se réfère à la coutume, nous sommes à 400 tribus dans ce pays et plus. On parle de 435-430 tribus. Imaginez-vous si chaque tribu n'applique que sa coutume. À ce moment-là, on n'a plus de repères, ça devient un état ingouvernable parce que quand vous allez dans chaque territoire de la République, vous trouvez des particularités. Même dans les villages, il y a des particularités en matière coutumière. Voici pourquoi on a voulu prendre une règle générale, impersonnelle, c'est ce qu'on appelle la loi, qui est applicable à tous, une loi, une règle dans laquelle tout le monde se retrouve de manière convergente. Alors si on va vers les coutumes de manière vraiment totale, sans réserve, eh bien, bien, on ne sait plus, ça devient ingouvernable, ingérable. Donc la coutume est bonne, oui, mais pour autant qu'elle est conforme à la loi. Si elle n'est pas conforme à la loi, malheureusement, elle tombe au profit de la loi.
Monsieur Guillaume Allaire, juriste indépendant, je vous remercie.
Merci à vous, Jody, merci à Radio Capital.